Vous écoutez le podcast Linguisticae. Qui étaient les Avars? Un peuple inconnu au milieu de l'Europe. Cet épisode a été écrit par Monté de Linguisticae et nous vous souhaitons une bonne écoute. Il se trouve que, comme peut-être certains d'entre vous, j'ai des phases. Et en ce moment, par exemple, je suis dans une phase au Moyen-Âge. Ou en réalité, plus exactement, une phase, ces peuples venus de loin dont on ne parle jamais mais qui vivaient là, pourtant, à côté de nous. Parce que cette période qui fait la jonction entre la chute de Rome et le début des châteaux forts va de pair avec ce second aspect. C'est en lisant sur l'Europe des années 500 que je suis alors tombé, par exemple, sur les Avars. Alors j'en avais déjà entendu parler, évidemment, peut-être vous aussi. Et pour autant, qu'en sais-je? Qui étaient-ils? Que voulaient-ils? D'où venaient-ils? Et surtout, comment ont-ils disparu? Eh bien ça, ma foi, moi, je n'en avais aucune idée. Pour peu d'ailleurs que qui que ce soit en ait une bien précise. Mais qui sont donc ces Avars? Les Avars sont un peuple qu'on a longtemps considéré comme turco-mongol et donc originaire de Mongolie. Ils sont connus des Chinois, dont ils sont les voisins à l'origine, sous le nom Ruanruan, mot qui a sûrement donné, d'ailleurs, en évoluant, le mot avare. Pour des raisons qui restent largement méconnues, peut-être suite à des conflits dans une région située au nord de la Chine ou de la Corée, les Avars ont migré vers l'ouest au tout début du VIe siècle. C'est alors qu'ils arrivent en Europe en poussant devant eux d'autres peuples qu'ils assimilent ou qu'ils enrôlent peut-être en chemin, comme les Scythes, les Huns ou les Turcs. Ils sont repérés au nord du Caucase en 555, puis ils s'installent sur la Volga et envoient une ambassade à Constantinople en 557. L'empereur de l'Empire romain d'Orient, qui n'est autre que Justinien, celui qui fut peut-être le plus célèbre de tous les empereurs de la période byzantine, les reçoit. Composé selon les sources de l'époque d'environ 20 000 cavaliers, une armée qui est donc assez conséquente, les Avars se voient proposer un marché. Contre un tribut, ils doivent soumettre les différents peuples nomades qui errent dans la steppe pontique, c'est-à-dire sur les rives nord de la mer Noire, en Ukraine actuelle. Les Avars deviennent alors des mercenaires dont la mission consiste à sécuriser le monde gréco-romain des incursions asiatiques qui se font de plus en plus courantes. En à peine 5 ans, les Avars soumettent toutes ces populations et les vassalisent. En 560, les Avars, qui stationnent donc vers la Volga, étendent désormais leur influence vers l'Europe. Puisqu'il ne faut pas l'oublier, les Avars eux-mêmes viennent de loin, et maintenant qu'ils ont soumis tous ceux qui étaient sur leur chemin, les voilà plus forts et plus menaçants que jamais et aux portes de l'Empire à qui ils avaient vendu leurs services quelques années plus tôt. Les Avars descendent alors dans les Balkans jusqu'à l'embouchure du Danube, la frontière naturelle du territoire de Byzance, de Justinien, du monde grec. Ils exigent alors qu'on leur cède la Mésie, soit une bonne partie de la Bulgarie actuelle, un territoire aux portes de la capitale pour ainsi dire, ce que Justinien refuse évidemment. Les Avars deviennent alors totalement hors de contrôle. Il décide alors de s'attaquer frontalement à la plus grande puissance européenne de l'époque. Il pille les terres qu'il convoitait, et lorsqu'il ne trouve plus rien à piller, il remonte le Danube vers l'ouest jusqu'en Austrasie des Francs, c'est-à-dire jusqu'au territoire couvrant aujourd'hui une partie de la France et de l'Allemagne. Sur le chemin, il combat des tribus slaves et germaniques. La situation dure jusqu'en 565, année durant laquelle il demande à Justin II, le nouvel empereur byzantin fraîchement installé, d'obtenir un territoire situé au nord de la Serbie actuelle et un tribut. L'empereur n'accepte pas. Mais comme les Avars sont eux-mêmes menacés par une poussée des Turcs venant d'Asie centrale, ils s'allient avec les Lombards, un peuple germanique qu'ils rencontrent durant leur périple. Ensemble, en partant de la Hongrie actuelle, la Pannonie, ils s'allient pour anéantir un autre peuple germanique, les Gépides, et ils en récupèrent alors le territoire. Par ce concours de circonstances particulières, les Avars n'ont d'autre choix que celui de rester sur place. Ils se fixent alors en Europe centrale, occupant toute la zone allant de la Volga au Danube, où ils soumettent la population locale composée de Slaves, de Valaques, c'est-à-dire des locuteurs de langue romane orientale comme les Roumains, et de proto-bulgares de langue et de culture turque. Ils obtiennent finalement, en 571, un traité de paix leur laissant une région comprise grossièrement entre le Danube, la Tissia et la Mourèche. Désormais basés entre les royaumes germaniques et le monde grec, à deux pas de l'Italie, les Avars continuent, année après année, à chercher de pousser vers le sud jusqu'à Constantinople, cette fois accompagnés des Slaves et des Germains qui peuplent maintenant leur territoire. Les Avars fondent donc, au cœur de l'Europe, un Khanat. Leur premier Khan, Bayan, n'est cependant pas très bien connue. Sa date de naissance, sa date de règne ou sa date de mort restent largement spéculatives. Leur ranade va cependant tenir dans la plaine pannonienne, c'est-à-dire la Hongrie actuelle, jusqu'au IXe siècle. Protégée par les Carpates à l'est, par les Alpes dinariques au sud et par les Alpes à proprement parler à l'ouest, les Avars règnent sur une vaste plaine fertile depuis leur capitale qu'ils placent en son centre. On l'appelle alors le Ring, du mot proto-germanique pour « anneau », puisqu'il s'agit d'un gigantesque campement fortifié en terre entouré de palissades, protégeant des tentes disposées en cercle, au centre desquelles leur butin est conservé. La position exacte du Ring n'est aujourd'hui pas connue, et il n'est d'ailleurs pas dit qu'il n'ait pas déménagé à travers le temps. À partir de ce constat, on peut supposer que les Avars adoptent peut-être un mode de vie sédentaire, mais leur vie de cavalier ne cesse pas pour autant. Ils continuent de lancer des raids de pillage vers le sud et vers l'ouest de l'Europe. Les Avars restent dans la région jusqu'à ce que les Francs de Charlemagne les chassent définitivement entre 791 et 805. Cette croisade a d'ailleurs à l'époque une importance considérable. Elle est, sur le plan politique, peut-être même bien plus importante que les batailles menées en Hispanie contre les Arabes et dont nous avons beaucoup parlé à l'école lorsque l'on apprenait l'histoire de France. Au cours de ces guerres à l'Est, les Avars sont chassés, exterminés et les survivants convertis de force au christianisme. Les terres conquises ou libérées, quant à elles, sont laissées aux Slaves. Charlemagne clôt alors la fin de ce chapitre après 250 ans de présence avare en Europe. Mais il demeure néanmoins une question. Qui étaient-ils finalement, ces Avars? La question de la culture et de la langue des Avars reste difficile à traiter. Leur structure politique évoque clairement les peuples de Mongolie, avec notamment le Khagan, le grand chef de guerre, élu par un conseil dirigeant les différents Khans locaux qui maillent le territoire. Mais à cette époque, ce fonctionnement se retrouve chez une myriade de peuples allant de la mer d'Orotsk à la mer Caspienne, sans dire grand-chose de leur véritable origine culturelle ou linguistique. Pendant longtemps, pourtant, ce fut le principal critère d'identification. Les Avars étaient soit définis comme un peuple mongol ou un peuple turc, parlant donc respectivement soit mongol, soit ougour, et le débat portait donc plutôt sur la nature de cette dichotomie et presque jamais sur le reste. Cette hypothèse est souvent renforcée par le fait religieux, puisque les Avars étaient tingristes, une croyance apparue au IIIe siècle en Mongolie. Pourtant, lorsque l'on vient d'aussi loin et que l'on a, à travers les siècles, rencontré tant d'autres peuples, il ne serait pas absurde que les Avars aient été métissés sur le plan culturel. Peut-être avaient-ils en effet de fortes traditions d'inspiration turco-mongole, notamment par tradition politique, par tradition religieuse. Pour autant, d'autres aspects auraient pu y échapper, comme par exemple la langue. Des dépouilles et sépultures d'Avars ont été retrouvées en Europe, de quoi permettre des études génétiques. Celles-ci plaident pour une origine clairement Asie centrale ou orientale des individus identifiés, et laissent donc entrevoir une société profondément endogame, c'est-à-dire une société où les membres d'un groupe donné, ici en l'occurrence les Avars venus d'Asie, ne se reproduisaient pas en dehors du dit groupe. Ces conclusions, qui sont surtout généralisables à la haute société à laquelle appartenaient ces sépultures, donnent également de bonnes correspondances génétiques avec des populations sibériennes, dont le territoire a effectivement été conquis par les Turcs durant l'Antiquité et durant le Haut Moyen-Âge. Les Avars auraient peut-être alors été liés aux Nganasan, un peuple samoyède aujourd'hui situé dans le nord de la Sibérie. Il n'est a priori pas absurde d'imaginer qui sait que les Avars aient pu conserver la langue de ces populations qui appartiennent à la famille Tungus, originaire de Mandchourie, c'est-à-dire originaire du nord-est de la Chine et de la Corée. Pour autant, cette hypothèse linguistique n'est pas la seule. Si l'on considère que les voyages métissent et peuvent induire un changement de langue, on peut alors imaginer, comme l'ont fait certains chercheurs, que les Avars aient adopté une langue iranienne durant leur périple. Cette possibilité est en réalité assez peu défendue dans le milieu universitaire. Elle suppose en effet un scénario où les Avars auraient pris la langue des populations scythes, sarmates et alènes, que l'on trouvait par-delà le Caucase lors de leur arrivée. Cette possibilité demeure donc purement spéculative. La question de la conversion linguistique durant le voyage pose aussi celle de la conversion linguistique après leur arrivée en Europe. Là aussi, il y a débat. Ont-ils appris le slave des tribus venues du Nord? Ont-ils appris le latin parlé sur place par ces populations reliques de l'Empire romain? Ont-ils sinon appris d'autres façons encore de communiquer? Nous l'avons dit, les Avars étaient vraisemblablement endogames. Leur fonctionnement social plaide probablement plus pour une conservation de leur langue. Comme les Francs, de langue germanique, venus s'installer sur les ruines de l'Empire romain d'Occident, qui n'étaient pourtant pas très nombreux et plongés au milieu d'une foule immense de langues latines, qui ont gardé leurs usages jusqu'au Xe ou XIe siècle. Ce sera l'occasion d'en reparler bientôt en podcast, mais rappelez-vous bien de ceci, ni Pépin le Bref, ni Charles Martel, ni Charlemagne, ni aucun mérovingien n'était de langue maternelle romane. Certains la parlaient, certes, mais leur vie et leur sociabilité se faisaient en ancien francique, et il fallut attendre l'arrivée d'Hugues Capet en 987 pour que la France voie sur son trône un individu dont la première langue était celle de son peuple, l'ancien français, sans pour autant oublier ses traditions familiales. Bien sûr, me direz-vous, les Francs vivaient à cheval et en contact perpétuel avec le monde germanique dont ils venaient, alors que les autres peuples germaniques partis plus loin, quant à eux, n'ont peut-être pas conservé leur langue autant de temps. C'est vrai, vous dirais-je. Néanmoins, dans une société stratifiée, d'autant plus quand elle est aussi concentrée que celle des Avars au milieu d'un territoire finalement assez dépeuplé et aux populations très diverses, ce n'est pas absurde. Parce que certes, le Ranat avare a développé le commerce et l'artisanat dans une société qui semblait multiethnique, composée d'Avars, de Slaves, de Germains, de peuples turcs et peut-être même finno-ougriens, toujours est-il qu'on avait une société rigoureusement organisée sur le plan social. L'esclavage y était pratiqué, toute l'économie dépendait de la population soumise ou asservie, et les Avars en position de domination sont a priori restés assez strictement séparés du reste de la population de leur territoire. D'un côté, les Avars originaires d'Asie, de l'autre, les populations européennes ou eurasiennes dominées. C'est en tout cas le cas jusqu'au 7e siècle, où il semblerait que des Slaves et des Germains aient pu être inclus à l'élite dominante. Si l'on fait un parallèle avec d'autres territoires européens durant cette période, il est très probable que la langue populaire majoritaire, le slave, ait servi de langue commune pour les échanges, tout comme ce fut aussi le cas pour les différentes variétés de latin au sein des royaumes germaniques ayant fleuri sur les cendres de l'Empire romain. Mais il est tout aussi probable que les Avars eux-mêmes, dans une bonne proportion, n'aient pas eu le besoin d'apprendre une autre langue que la leur. Il n'est pas rare dans ces cas précis que ce soit à la population asservie d'apprendre et de parler la langue de leur maître, ou bien qu'il y ait des interprètes, ou bien encore qu'une part réduite de chaque classe soit bilingue et que cela suffise à tous pour faire fonctionner leur société. Alors bien sûr, plusieurs historiens ou archéologues plaident pour une conversion au mode de vie et à la langue slave des Avars. Mais cette hypothèse, de l'aveu certains d'entre eux, est purement conjoncturelle et hypothétique. Cette assertion se base notamment sur un témoignage franc, celui d'Eginhard, selon lequel Charlemagne s'était battu à l'Est contre des barbares qui ne se ressemblaient pas du tout mais qui avaient une langue similaire. Néanmoins, n'importe qui s'étant battu contre l'Empire romain durant l'Antiquité aurait pu dire la même chose, puisque le latin était sans contexte la langue de l'armée. Pour autant, l'Empire lui-même était très largement multilingue, avec une bonne part qui utilisait d'ailleurs une autre langue administrative que celle de Rome, le grec. Si les armées sont des vecteurs linguistiques forts, elles ne représentent pour autant pas nécessairement, pour ne pas dire parfois même jamais, la réalité linguistique de l'entité politique qu'elles servent. Toutes ces hypothèses nous font dire que finalement, on connaît assez mal les Avars et leur société. C'est comme si ce peuple venu de l'autre bout du monde jusqu'au cœur de l'Europe, et qui est resté 3 siècles en terrorisant des empires comme ceux des Francs et des Byzantins, n'avait jamais existé, ou presque, dans notre mémoire collective. Et c'est ça, moi, qui personnellement me questionne. Si l'héritage des Avars est réclamé par les Sicules, minorité hongroise de Roumanie, qui explique en descendre et s'être réfugié dans les Carpates pour fuir Charlemagne, et si d'ailleurs c'est probablement très contestable et motivé pour des raisons nationalistes plus qu'archéologiques, leur existence n'est en dehors de ce cas spécifique pas très présente dans la mémoire collective. Dès la conquête de leur territoire d'ailleurs, leur nom n'apparaît plus nulle part, et il devient bien difficile de savoir ce qu'ils deviennent. En France, ni dans les programmes scolaires, ni dans le roman national, leur présence n'est mentionnée alors qu'ils étaient au contact direct des Francs et que leur conquête par Charlemagne fut probablement d'une importance capitale pour la situation politique et religieuse de l'Europe de l'époque. Les Avars, quant à eux, ont par leur simple présence changé beaucoup de choses à la vie du continent. Leur simple arrivée coïncide probablement avec la fin de la langue romane dans la région, qui avait été apportée par la romanisation de l'Empire romain. C'est comme si, en lisant là-dessus, en lisant sur ce sujet, on redécouvrait non seulement une histoire européenne bien plus mobile et diverse que ce qu'on s'imagine, très loin des clichés de ce qu'on s'imagine d'ailleurs, mais c'est aussi comme si on avait l'impression que ces grandes migrations lointaines étaient finalement un peu mises sous le tapis pour se concentrer sur celles que l'on connaît déjà bien, celles des Germains, celles des Slaves aussi dans une moindre mesure, celles des Celtes venus coloniser la Bretagne, et tout cela pour des raisons qu'il est assez facile de deviner. Quant à l'héritage culturel et linguistique des Avars, et celui d'autres également, c'est comme si cette question n'était finalement jamais posée. Peut-être cet héritage a-t-il été dérisoire, peut-être nous est-il largement méconnu pour un tas de bonnes raisons, si l'on peut dire, mais j'avoue que je suis personnellement assez frustré de cette situation. Serais-je le seul à m'émerveiller de redécouvrir ces histoires, ces questions, ce quart de millénaire au contact de peuples qui sont aussi timides dans leurs informations qu'ils nous ont laissées ? Peut-être bien, mais si vous êtes allé jusqu'au bout, il semblerait que vous aussi. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez-nous sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. En espérant que vous avez passé un bon moment, c'était le podcast Linguisticae. Nous vous souhaitons une bonne soirée.